Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus marche.
Jésus libère.
Jésus rétablit.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chaînes, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Mon être est brisé, je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Et je pense que aussi, si un des époux n'est pas sage avec l'argent, il faut prendre aussi ses dispositions. Donc je ne suis pas là pour imposer une direction, mais que chaque chose, chaque famille a un cas particulier. Et si j'ai rencontré beaucoup de femmes qui payent les dettes de leur mari, parce que les maris, donc, ne sont pas dans le Seigneur et vraiment font des choses insensées, stupides avec l'argent, et qu'elles vont, elles, travailler et qu'elles payent les dettes. Ce que Dieu ne veut pas non plus. Amen. Donc, je pense qu'il faut avoir de la sagesse en toute chose. Je vous dis mon point de vue, mais je pense qu'il est applicable à chaque situation. Amen. On va chanter un dernier chant et puis on va passer à la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêtes? Est-ce que vous êtes intéressés à connaître à propos de l'esprit de Jézabel? Est-ce que vous avez déjà entendu prêcher sur l'esprit de Jézabel? Non? Moi, j'ai jamais entendu prêcher sur l'esprit. Qui est-ce qui a déjà entendu prêcher sur l'esprit de Jézabel? Ok, une, deux, trois, quatre. Ok, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Est-ce que vous avez vos stylos et vos cahiers d'abord? Vous savez, parce que moi, je ne vais pas prêcher ce soir, je vais enseigner. Donc, je vais aller doucement. Et si vous avez donc un stylo, un papier, vous en aurez bien, ce sera bien précieux pour vous ce soir, parce que je n'ai pas l'intention de prêcher. Parce que la prédication, c'est une bonne chose, mais souvent, les gens en gardent très peu. N'est-ce pas? Lorsqu'ils entendent la prédication, ils se sentent tout ravigotés. Ils ont la foi qui est relevée, mais ils gardent peu de choses de la parole de Dieu. Par contre, l'enseignement, les gens gardent beaucoup plus. Ils gardent, ils reçoivent, ils écrivent, ils impriment en eux-mêmes. Amen. Donc c'est une connaissance qui vient en eux. Donc l'enseignement est important pour l'Église. Il y a besoin d'enseignement dans l'Église et les gens de l'Église ont besoin d'être enseignés. Amen. Levons-nous tous ensemble et nous allons louer le Seigneur quelques instants. Alors que nous commençons cette étude sur l'esprit de Jézabel, Seigneur, nous réalisons que nous sommes dans ce monde, que ce monde est un monde de péché, c'est un monde qui ne te reconnaît pas et qui te rejette. C'est un monde qui n'est pas un monde selon Dieu, mais nous avons été placés dans ce monde et nous sommes les lumières qui brillent dans ce monde. Et Seigneur, nous voulons te ressembler à toi et à toi seul. Et nous ne voulons que rien de ce monde vienne dans nos vies nous tacher, nous entacher, faire éteindre ou vouloir éteindre la lumière de Christ dans nos vies. Seigneur, c'est avec révérence et avec grand sérieux que nous voulons prendre part à ces paroles ce soir. Seigneur, à propos de cet esprit, afin qu'il n'ait rien en nous, qu'il ne trouve rien en nous et qu'il ne nous utilise jamais. Seigneur, nous te prions, Père, que nous soyons des vases. Seigneur, c'est avec crainte et tremblement, Seigneur, que nous sommes devant toi, parce que nous savons que tu es un Père et tu es notre Père. Tu es aussi un Dieu dévorant. Tu es celui que nous voulons servir de tout notre cœur, avec vraiment tout l'enthousiasme et tout le zèle que nous avons pour toi. Et nous ne voulons en aucun cas être un obstacle, Seigneur, à ton royaume, un obstacle à tes plans, Seigneur, ni aujourd'hui, ni dans l'avenir, Seigneur, jusqu'à ton retour. Nous voulons être des instruments entre tes mains. Et Seigneur, je prie que cette parole, Seigneur, soit déposée maintenant dans les cœurs, que la crainte de Dieu vienne aussi avec cette parole. Seigneur, que le fait de sonder son propre cœur, Seigneur, vienne aussi et suive avec cette parole. Que chacun, Seigneur, ait sa lumière allumée pour faire le ménage chez soi, si cela est nécessaire. Ce que ton esprit, Seigneur, va dire, va montrer, va désigner, te prions, Père, que ce soit vraiment pour émonder dans le nom de Jésus, afin que nous portions plus de fruits. Parce que tu es le cep et nous sommes les sarments. Et Seigneur, nous ne voulons pas être un bois qui sera jeté au feu parce qu'il ne trouve pas de fruits. Mais nous voulons être un bois, Seigneur. Nous voulons être une vigne, un cep qui porte du fruit, Seigneur, dans notre génération et dans notre temps, dans le nom de Jésus. Nous te remercions, Père, de ce que tu nous parles. dans le précieux nom de Jésus, maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc ce soir, j'aimerais commencer une étude, et je ne sais pas donc si je vais pouvoir la terminer ce soir, mais une chose est sûre, vous avez besoin d'avoir votre stylo, vous avez besoin d'avoir votre cahier, votre papier, pour prendre des notes à propos d'un esprit qui n'est pas un petit esprit, n'est-ce pas, qui est un esprit qui est connu dans la Bible, qui est connu dans le monde, et qui s'appelle l'esprit de Jézabel. Et cet esprit-là est vraiment l'esprit de la fin des temps, n'est-ce pas? Et plus que jamais, nous sommes dans la fin des temps. Et plus que jamais, nous devons nous méfier de cet esprit et nous devons le reconnaître, parce que cet esprit est délié et libéré sur la terre. Et non seulement il l'est déjà, mais il va l'être encore plus. Et il ne va pas simplement être délié sur la terre, c'est ce qui veut dire dans le monde. Le diable veut le délier dans l'Église. Amen. Et donc nous sommes là pour l'identifier, cet esprit. Nous sommes là pour le reconnaître. Et nous sommes là pour le chasser dans le nom de Jésus. Et nous sommes là aussi pour être oint et ointe par Dieu, pour être capable de lui faire face. Amen. Et nous parlons souvent des choses du monde des ténèbres, nous parlons souvent des esprits, combien nous avons la victoire. Mais lorsque je vous parle de l'esprit de Jézabel, je ne vous parle pas d'un petit esprit, je vous parle d'un esprit qui se combat avec une double onction. Amen. Et donc cet esprit-là, il nous faut avoir et être rempli de l'onction de Dieu dans les temps dans lesquels nous sommes pour arriver à lui faire face. Vous savez, il y a quelque temps de cela, en fait, il n'y a pas longtemps, il y a à peine une semaine, je termine, le Saint-Esprit m'a conduit dans un jeûne qui était partiel, qui a duré un mois, et donc je viens de terminer cela, et en terminant ce jeûne, j'ai eu un rêve. Et ce rêve était très spécial, et ce rêve m'a profondément marqué, et je crois vraiment que le Saint-Esprit m'a parlé par rapport aux choses auxquelles nous faisons face, tous les uns les autres, l'Église de Jésus-Christ et les temps dans lesquels nous sommes. Et dans ce rêve, en fait, quelqu'un m'a amené dans une espèce de réunion, dans une espèce d'assemblée, et je n'étais pas du tout informée de ce qu'il en était. Mais en tout cas, j'entre, et c'était comme une arène. Vous pouvez voir en ce moment le football, n'est-ce pas? Vous voyez donc ces arènes, on peut vous imaginer donc le Stade de France, mais immensément plus grand. C'est-à-dire le Stade de France multiplié peut-être par 100. Et dans ces arènes-là, comme cela, on voit des gradins, il y avait des centaines de milliers de personnes que je pouvais voir petites comme cela, tellement il y avait de monde dans ces arènes. Et moi, j'entre là et je ne sais pas ce qui se passe, mais à côté de moi, il y a trois lits. Et sur ces trois lits, il y a des personnes qui sont allongées. Et puis je regarde, il y a un espèce d'animateur. En fait, je ne sais pas exactement ce que fait cet homme, mais il parle, et puis tout le monde écoute, et il se met à parler. Et puis il vient sur un des lits, et il y a une personne qui est allongée sur ce lit, et là, vous savez, comme quand les gens peut-être vont faire des massages, ou je ne sais trop quoi, enfin, elle a une serviette autour d'elle, cette personne, et donc elle est allongée sur le dos, et cet homme vient, et d'un seul coup, il s'assoit donc sur le lit, la personne est allongée sur le ventre, et il passe sa main comme ça sur le dos de cette personne. Et lorsqu'il passe la main, il ne touche pas la personne, mais juste au-dessus de la personne, il y a un champ magnétique qui est libéré et il commence à lire la personne. Il commence à lire sa vie, il commence à lire son passé, il commence à lire l'état de ses finances, il commence à lire cette personne. Il connaît absolument tout sur cette personne. Et je trouve cela très étrange. Et puis il va vers l'autre personne qui est sur l'autre lit, et tout le monde écoute, et voici, il s'assoit, et il fait comme une démonstration, voyez-vous. Et donc, il étend sa main sur le dos de cette personne, et à nouveau, il y a une espèce de champ magnétique qui se passe, et il se met à lire la personne. Et il connaît son nom, il connaît son âge, il connaît absolument tout de cette personne. Donc, et puis voici que moi, je suis sur ce troisième lit. Et donc on me demande de m'allonger, et je suis exactement comme ces trois autres personnes. Et puis il vient vers moi, et il étend sa main une première fois, et il essaye de me lire, et il n'arrive pas à me lire. Et puis, il étend sa main une deuxième fois, et puis il n'arrive pas à me lire. Une troisième fois, et il n'arrive pas à me lire. Et il commence à crier, mais vous n'avez pas la carte, mais vous n'avez pas la carte. Et je me tourne, je dis, mais quelle carte, quelle carte? Mais vous n'avez pas la carte, je ne peux pas vous lire, je ne peux pas vous lire. Et puis après, il vient vers moi et me dit, tu dois avoir la carte, il faut que vous ayez la carte. Et toute espèce de groupe de personnes viennent et me disent que je dois avoir la carte. Et je dis, mais quelle carte? Non, je ne veux pas la carte. Et gentiment, je leur fais comprendre que je ne suis pas intéressée et je m'en vais. Lorsque je me suis réveillée de ce rêve, je me suis dit, là, Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a parlé des temps dans lesquels nous sommes. Mes amis, il y a un esprit dans ce monde. Et bien évidemment, lorsque l'on parle de champ magnétique et de carte, on parle là donc du chiffre de la bête, n'est-ce pas, que vous avez pu reconnaître, par lequel nous pouvons être lus. Et que si nous entrons dans le système de ce monde, si nous marchons selon le système de ce monde, si nous agissons sur le système de ce monde, nous nous soumettrons aussi au chiffre de la bête. Et alors que je vous parle de l'esprit de Jézabel, je vous parle de, d'hommes, parce que je vous ai dit de regarder un petit peu dans Chroniques et dans Les Rois, je vous parle d'hommes et de femmes qui ont dû faire face à cet esprit, c'est-à-dire de prophètes qui ont dû faire face à cette reine qui est venue au pouvoir et qui d'un seul coup a amené une persécution sur tous les prophètes, de sorte que Élie a été vraiment aussi dans une grande détresse, dans une grande persécution par cette femme, et qu'il s'est senti seul au monde, mais que Dieu lui a dit « Non, tu n'es pas seul ». Parce qu'il y a aussi 7000 autres prophètes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal et qui ne l'ont pas baisé de sa bouche. Mais de ces 7000 prophètes, certains peut-être étaient cachés dans des cavernes. Certains étaient rappelez-vous que certains avaient été cachés dans des cavernes, buvaient à cette époque donc de l'eau et mangeaient du pain simplement, pour ne pas ployer le genou devant cet esprit-là, pour ne pas avoir à l'embrasser, pour ne pas avoir à l'adorer. Et nous, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous allons aussi passer par des temps où l'esprit de Jézabel va se lever, et pas seulement l'esprit de Jézabel, mais particulièrement l'esprit de l'Antéchrist qui va venir dans ce monde. Et il nous faudra faire un choix dans nos vies, dans nos actions, dans nos décisions, dans nos façons d'agir, pour savoir qui est-ce que nous allons servir. Quel système nous allons avoir dans notre vie? Est-ce que nous allons ployer le genou devant le système de ce monde ou pas? Est-ce que nous allons embrasser le système de ce monde ou est-ce que nous allons accepter peut-être de passer du temps ou des années dans une caverne à boire de l'eau et du pain pour ne pas être lus par cette carte? Nous faisons face à cet esprit et Dieu me l'a montré très récemment. Alors que j'étais dans ce jeûne de un mois, et j'ai eu la grande joie de savoir que le diable ne peut pas me lire, et qu'il n'a rien en moi et que je n'ai rien en lui dans le nom de Jésus. Il ne peut pas me lire, mais il voudrait me lire. Il veut mettre cette carte, entre guillemets, dans la vie des gens. Il y a un esprit dans ce monde, il y a un système dans ce monde, et nous ne devons pas ployer le genou devant ce système. Nous devons lui résister. Et dans les temps qui viennent, et je vous parle ce soir très sérieusement, parce que je commence simplement ce sujet-là, mais dans les temps qui viennent, ne pensez pas que nous allons simplement sauter et danser et louer Dieu. Nous allons bien sûr nous réjouir dans le Dieu de notre salut, mais nous allons faire face aussi à des défis, qui sont des défis spirituels. Et c'est la raison pour laquelle dans notre vie aujourd'hui, nous devons un peu faire le ménage pour savoir quelles sont nos attitudes, quels sont nos procédés, quelles sont nos façons de faire, avec quel esprit nous agissons, et de nous assurer que la façon dont nous agissons dans ce monde n'est pas déjà une façon de faire qui appartient au système de ce monde, parce que si nous avons en nous-mêmes déjà des façons de faire qui appartiennent au système de ce monde, nous ploierons aussi le genou devant le grand système de ce monde lorsque nous serons sous pression. Est-ce que vous avez compris ce que je veux vous dire là? L'esprit de Jézabel est bien connu par, euh, par tout le monde comme, vous serez d'accord avec moi, comme un esprit de contrôle, n'est-ce pas? Seulement, moi, j'ai décidé de ne pas l'appeler l'esprit de contrôle, parce que je pense que c'est bien plus fort qu'un esprit de contrôle. Ce n'est pas un esprit de contrôle, c'est un esprit de domination. Et je rends grâce à Dieu pour cette église, qui est une église forte et qui est une église puissante. Et je rends grâce à Dieu de ce que cet esprit n'entrera pas dans cette église. Et que cet esprit a déjà été vaincu, et qu'il est vaincu, et qu'il n'aura jamais plus de puissance dans ce lieu. Mais c'est important de connaître pour vaincre. Vous savez, la connaissance vous donne la puissance de vaincre. Et comme on le dit bien souvent, le manque de connaissance n'est pas une bénédiction, n'est-ce pas? L'esprit de Jézabel, c'est un esprit antéchrist qui se manifeste et qui va être libéré, je le répète, comme je l'ai dit tout à l'heure, davantage et de plus en plus fort alors que le retour de Jésus-Christ approche. Et ce n'est pas simplement un petit esprit de contrôle, c'est un esprit de domination. La raison pour laquelle j'enseigne sur ce sujet, c'est que peut-être certains d'entre vous, vous allez ou vous faites déjà face à cet esprit, et par cette étude, je vais vous permettre de ce que vous parveniez à la connaissance des choses auxquelles vous faites face. Mais aussi, par cette étude, j'aimerais que vous puissiez vous voir et vous sonder vous-même pour savoir si vous n'avez pas en vous certaines caractéristiques de cet esprit et donc vous êtes utilisé indirectement ou par un faible pourcentage par cet esprit. Donc mon étude a deux objectifs. Premièrement, est-ce que vous êtes sous oppression déjà par cet esprit ou est-ce que vous êtes en train de faire une oppression, vous, sur d'autres personnes par le biais de cet esprit? Est-ce que vous comprenez cela? Ça va faire le nettoyage, n'est-ce pas? Ok. La raison principale pour laquelle donc, j'enseigne sur cet esprit, c'est pour que vous sachiez le reconnaître et le démasquer. Pour qu'il ne s'attaque pas à vous et pour que vous n'en soyez pas victime. Amen. Pour que aussi vous ne soyez pas séduite par cet esprit. Parce que n'oubliez pas que le diable ne vient jamais avec une queue longue et des cornes dans un vêtement rouge. Il vient comme un ange de lumière, il vient et il séduit. Amen. Il y a énormément de gens qui ont été séduits par cet esprit, parce que cet esprit, il est fort et il est puissant. Et donc il amène de la séduction. Les gens sont séduits par l'apparence de la force et de la puissance. Donc une des raisons pour laquelle je vous enseigne sur l'esprit de Jézabel, c'est pour que vous ne soyez pas séduite par cet esprit. Amen. Et c'est pour que, je le répète encore parce que j'ai mes notes qui sont écrites, comme je vous ai dit, j'enseigne ce soir. Donc c'est pour que vous luttiez pour que cet esprit n'agisse pas en vous d'aucune façon, même pas au 10%, même pas 5%, même pas 0,5%, mais qu'il n'ait rien en vous. Amen. Qu'il n'est rien en vous. Parce qu'il y a des attitudes, des pensées ou des façons de faire qui viennent directement de cet esprit. Amen. Et vous aurez l'occasion donc ce soir ou peut-être une prochaine fois, ça dépend jusqu'où on va pouvoir aller ce soir, donc de reconnaître ces attitudes, ces pensées ou ces façons de faire. Cet esprit a aussi des ruses et des techniques et vous allez pouvoir les reconnaître aussi. Mais la chose que vous allez apprendre, c'est à haïr cet esprit. À haïr cet esprit et à le rejeter et à le combattre. Amen. Alors maintenant, écoutez-moi bien. Nous sommes dans un monde où, et je m'adresse aux femmes, donc je vous parle à vous, les femmes. Nous sommes dans un monde où nous, les femmes, le statut de la femme a beaucoup évolué, n'est-ce pas? Les femmes ne sont plus ce qu'elles étaient au siècle dernier. Nous ne sommes plus enfermées dans des corsets, n'est-ce pas, à être obligé de s'habiller avec des robes longues, et obligé de rester à la maison, et obligé de ceci, obligé de cela. Le statut de la femme a évolué, n'est-ce pas? On peut dire que dans ce 20e siècle, 21e siècle, les femmes sont devenues des femmes libres, et sont devenues des femmes fortes. Et gloire à Dieu pour cela. Amen. Maintenant, donc, il y a la volonté pour les femmes dans le monde dans lequel nous sommes d'être et de devenir des femmes fortes. Amen. C'est une volonté personnelle d'y arriver dans ce monde. Et on voit aujourd'hui des femmes qui conduisent des autobus, des femmes qui font des lois, parfois stupides d'ailleurs, au Parlement. Il y a donc des femmes qui font toute espèce de choses, n'est-ce pas? Maintenant, dans cette volonté de devenir une femme forte, et c'est une bonne chose, nous devons faire bien attention parce qu'il y a des dérives. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous sachiez qu'être une femme forte, aujourd'hui, ne veut pas dire devenir une Jézabel. Vous pouvez être une femme forte. Dieu veut que vous soyez une femme forte. Oui, c'est merveilleux d'être une femme forte. Mais pour devenir une femme forte, vous n'avez pas besoin de devenir une Jézabel. Vous n'avez pas besoin d'employer le bras de la chair. Vous n'avez pas besoin de vous battre avec les armes du diable. Oui, Dieu veut que vous soyez une femme forte. Mais une femme forte selon Dieu. Et être forte selon Dieu, c'est être capable d'obéir à Dieu. Vous savez, être fort dans ce monde, la signification et la connotation d'être quelqu'un de fort dans ce monde, c'est être quelqu'un de libre. Et être quelqu'un de fort dans ce monde, c'est savoir dire non aux gens, c'est savoir claquer la porte quand on en a envie, n'est-ce pas? C'est ça la connotation de fort dans ce monde, c'est être libre, c'est faire ce qu'on veut, c'est claquer la porte quand on veut, à qui on veut et comme on veut. Mais ça, ce n'est pas être fort selon Dieu. Être fort selon Dieu, c'est être capable d'obéir à Dieu. C'est être capable d'aimer comme Dieu veut que nous aimions. C'est être capable d'agir comme Dieu veut que nous agissions. C'est d'être capable de se battre avec les armes de Dieu et non les armes du diable, qui sont tellement faciles à prendre. Les armes du diable sont tellement plus faciles à prendre que les armes de Dieu. N'est-ce pas? Être fort selon Dieu, c'est pas la même chose qu'être forte selon le monde. Et Dieu vous appelle à ne pas être forte selon le monde, mais à être forte selon Dieu. Et mes amis, il y a eu des femmes fortes dans ce monde, et il y a eu des femmes fortes dans la Bible. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez puiser de la force de ces femmes. Lorsque il y a eu le temps de la fête des mères, n'est-ce pas, je vous ai parlé de femmes. Je vous ai parlé de femmes comme ces femmes qui s'appelaient Shifra et Pua, qui étaient donc autant... dans le premier ou deuxième chapitre d'Exode, n'est-ce pas? Ces femmes qui étaient des sages-femmes, n'est-ce pas? Et lorsque le pharaon a dit que les enfants, les mâles devaient être tués, et que donc ces femmes devaient pratiquer donc des avortements ou pratiquer je ne sais trop quoi, elles se sont tenues pour la vérité, elles ont été fortes. Et lorsque Pharaon leur a donné des comptes, elles ont dit mais non, parce que les femmes des Hébreux, elles accouchent vite. Et nous obéirons à Dieu. Et ça, ça a été des femmes fortes, selon Dieu. Si vous regardez l'histoire de Jaël, et que j'aime bien parler de Jaël, et il m'arrive souvent de parler de Jaël, et je suis sûre que vous connaissez Jaël, vous avez tout au moins appris à connaître Jaël avec moi, c'est que Jaël était une femme forte. Lorsque toute l'armée courait après Sisera et qu'il n'arrivait pas à l'attraper, elle l'a fait entrer dans sa tente, et elle n'a pas usé de complaisance. Elle n'a pas cherché à avoir sa grâce ou sa faveur, elle a pris le pieu enfoncé dans sa tempe. Et vous savez, il y a une femme que j'ai découverte, mais je n'ai pas trouvé son nom, et je ne crois pas que son nom ait été donné dans la Bible. C'est une femme qui est dans Juges 9, je crois, au temps d'Abimélec. Vous connaissez Abimélec? Et vraiment, des peuples, le peuple vraiment essayait de le tuer, cet Abimélec, qui était vraiment injuste, qui faisait du mal. Et il y avait tellement de gens qui lui couraient après pour essayer de le tuer, de le vaincre. Mais personne n'arrivait à le vaincre. Et il arrive dans une ville, et voici que tout le monde se réfugie dans la ville, et tout le monde a peur de Abimélec, et personne ne peut lui faire face. Et il y avait une femme là. Elle était là sur le rempart. Mes amis, elle n'avait pas d'épée. Mes amis, elle n'avait pas de bâton. Elle n'avait pas de flèche et un arche. Elle n'avait rien de tout cela. Mais une chose, la première chose qu'elle l'a trouvée, elle a pris un morceau de meule, elle lui a jeté sur la tête. Elle a écrasé son ennemi. Mes amis, ça, ce sont des femmes fortes. N'est-ce pas? Des femmes qui n'ont pas besoin à chercher à avoir une épée ou je ne sais pas quoi, qui se tiennent pour la vérité et pour la justice. et qui utilisent vraiment ce qu'elles ont pour faire prévaloir la justice de Dieu. Nous pouvons être des femmes fortes dans ce monde, mais mes amis, avec les armes de Dieu. Mais bien souvent, les femmes ont vu, écoutez-moi bien, les femmes ont vu des modèles de femmes soi-disant fortes. Mais fortes selon le diable, je le dis, fortes selon Satan, fortes selon la chair, fortes avec les armes de Satan. Et les femmes pensent que pour être des femmes fortes, il faut qu'elles fassent les mêmes choses. Et moi, je suis là pour vous dire, attention à quel modèle vous placez sous vos yeux. Et d'ailleurs, quels sont vos modèles? Qui sont les personnes que vous admirez? Vous savez que il nous faut nous poser la question, qui est-ce que vous admirez? Qui est-ce que vous placez devant vos yeux? Qui vous inspire? Qui vous communique de la force, de l'énergie? Qui? Est-ce que ce sont des gens selon Dieu? Est-ce que ce sont des gens qui marchent selon Dieu? Est-ce que ce sont des gens qui agissent selon Dieu? Ou est-ce que ce sont des gens qui se battent différemment? Est-ce que ce sont des gens qui sont forts dans l'esprit antéchrist de ce monde? Qui sont vos modèles? Posez-vous la question. À qui voulez-vous ressembler? Vous savez, tout le monde, quel que soit votre âge, que vous soyez jeune, et plus vous êtes jeune et plus vous êtes influençable, mais que vous soyez jeune ou que vous soyez moins jeune, il y aura toujours quelqu'un qui va vous inspirer, n'est-ce pas? Il y a toujours quelqu'un qui va vous faire aller de l'avant. Et vous savez, j'aimerais que vous sachiez une chose. Je choisis les personnes que j'estime ou les modèles que je mets devant moi, je les choisis très précautionneusement. Je les choisis avec un grand soin et les femmes qui m'inspirent et qui me donnent de la force tiennent sur deux doigts. Pas qu'il y ait peu de femmes qui soient merveilleuses. Je fais attention à qui je place devant mes yeux. Je fais attention à qui j'estime. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les personnes que vous estimez, les personnes que vous placez devant vous, qu'elles soient selon Dieu ou qu'elles ne le soient pas, il y a un transfert qui se produit par rapport aux personnes que l'on estime et que l'on admire. Les personnes que vous admirez vont vous transférer ce qu'elles ont. Mais vous devez connaître leur voix, vous devez connaître leur esprit, parce que leur esprit deviendra votre esprit, parce que leur façon de faire deviendra votre façon de faire, parce que leur destinée deviendra votre destinée, parce que leurs habitudes deviendront leurs habitudes et leur fin deviendra votre fin. Et vous devez faire attention à qui vous estimez, qui vous admirez, qui vous placez devant vos yeux, à qui vous voulez ressembler. Je vous le dis dans le nom de Jésus. Et je suis pratique et je vais doucement. Parce que les destinées des femmes que vous placez devant vos yeux seront aussi votre destinée. Il y a un transfert d'esprit qui se passe par l'estime et par l'admiration. Et vous devez faire bien attention, vous devez connaître les personnes par l'esprit. Amen. Et vous devez estimer et admirer les gens qui marchent selon Dieu, les gens qui marchent pour Dieu et qui se tiennent pour la justice. Maintenant, écoutez-moi bien. L'esprit de Goliath, et on est toujours en train de parler de l'esprit de Jézabel. L'esprit de Goliath est un esprit d'intimidation, n'est-ce pas? Lorsque tout le peuple était là et que Goliath s'est tenu au milieu de la vallée, on peut l'imaginer comme ça, les jambes écartées, il a défié du haut de ses 2,50 m l'armée de l'Éternel, il a proféré des insultes, il a proféré la mort du peuple d'Israël avant même d'avoir combattu. C'était un esprit d'intimidation. L'esprit de Goliath est un esprit d'intimidation. L'esprit de Delilah est un esprit de manipulation. C'est un esprit qui prend, qui d'abord ne se montre pas comme un esprit ennemi, qui met la tête de son ennemi comme si c'était un ami sur ses genoux, et qui lui dit, tu ne m'aimes pas vraiment, parce que si tu m'aimais vraiment, tu me révélerais ton secret. Ça s'appelle esprit de manipulation et de dissimulation. Vous êtes avec moi? L'esprit de Goliath est un esprit... Ensemble. L'esprit de Delilah est un esprit... Dissimulation. L'esprit d'Hérodias et de Salomé est un esprit qui tue ceux qui dénoncent ou exposent leurs péchés. N'est-ce pas? Hérodias était la femme de Philippe Hérode, mais elle couchait avec Hérode Antipas. Et Jean-Baptiste le savait. Et Jean-Baptiste préparait les voies du Seigneur. Et Jean-Baptiste appelait le peuple à la repentance. Et lorsque Jean-Baptiste a vu Hérode Antipas et Hérodias passer dans un char, il leur a dit qu'ils devaient se repentir de leur péché. Et lorsque ça a été l'anniversaire d'Hérode, je crois que c'est Philippe Hérode, donc, qui aimait, qui appréciait tellement Jean-Baptiste, qui reconnaissait l'Esprit de Dieu en Jean-Baptiste, a demandé à Salomé de danser. Et Salomé a dansé et lui a dit, même si tu me demandes la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Et Hérodias a dit à Salomé, Salomé, tu demanderas la tête de Jean-Baptiste sur un plateau d'argent. L'esprit de Goliath est un esprit d'intimidation. L'esprit de Delilah est un esprit de manipulation et de dissimulation. L'esprit d'Hérodias et de Salomé est un esprit qui dénonce son péché. Est un esprit qui tue ceux qui dénoncent son péché. L'esprit de Jézabel, c'est l'esprit de Goliath, plus l'esprit de Delilah, plus l'esprit d'Hérodias. Et c'est vraiment l'esprit antéchrist. L'esprit de Jézabel, c'est l'accumulation de tous ces autres esprits. Est-ce que vous me suivez? C'est pas un petit esprit. C'est pas un esprit avec lequel on fait joujou. N'est-ce pas? Et ce n'est pas un esprit qui se trouve chez les novices. Vous savez ce que c'est les novices? Les tout nouveaux bébés chrétiens. Non, 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 non. Ce n'est pas un esprit qui se trouve chez les novices. C'est un esprit qui agit chez ceux qui ont déjà de la connaissance. Parce que bien évidemment, c'est un esprit qui ne va pas essayer d'agir dans le monde, il va essayer d'agir dans l'Église. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est un esprit qui connaît la Bible, n'est-ce pas? Qui connaît la parole de Dieu, sinon il ne peut pas agir dans l'Église. C'est un esprit qui connaît l'Église, qui connaît le fonctionnement de l'Église. C'est un esprit qui connaît le corps de Christ, n'est-ce pas? C'est un esprit qui connaît et qui reconnaît très bien l'onction. L'onction. C'est un esprit qui est très fort et puissant. Et je vais vous dire une chose. Vous ne pouvez pas être attaqué ou animé ou comme si le diable essaie de vous attaquer dans votre personnalité pour que vous agissiez selon l'esprit de Jézabel. Vous ne pouvez pas être attaqué par l'esprit de Jézabel tant que vous n'êtes pas élevé à une position d'autorité. C'est-à-dire que tant que vous faites rien, vous n'êtes pas attaqué par cet esprit. Au moment où vous avez une responsabilité, cet esprit commence à venir à frapper à la porte. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que je vais vous le décrire. Décrire son fonctionnement, décrire son processus, sa façon d'agir. Tant que vous êtes assis sur votre chaise et que vous ne bougez pas et que vous ne faites rien, cet esprit ne viendra pas vous chatouiller. Mais quand vous commencez à avoir une responsabilité, quand vous commencez à être vu, quand vous commencez à avoir de l'influence, cet esprit vient frapper à votre porte. En d'autres termes, quand vous commencez à avoir une position d'autorité, vous devez veiller sur votre cœur. plus que sur toute autre chose. Amen. Maintenant, et j'aimerais que vous notiez cela, voici les différentes caractéristiques de cet esprit. Alors on a dit que c'est un esprit de contrôle, et moi je dis donc plus c'est un esprit de domination, premièrement. Deuxièmement, c'est un esprit idolâtre. Dans le mot idolâtre, il y a le mot religieux. Comprenez ? Tout ce qui parle de Dieu n'est pas Dieu. Tout ce qui s'intéresse aux choses de Dieu n'est pas Dieu. L'esprit de Jézabel est un esprit idolâtre. C'est un esprit qui tourne autour de toutes les choses spirituelles, mais qui n'est pas de Dieu. C'est un esprit qui adore, idolâtre veut dire adore, oui, mais pas Dieu. Et la plupart du temps, c'est qui adore Satan ou soi-même. Est-ce que vous comprenez cela ? C'est important de le noter. C'est un esprit qui est aussi un esprit politique. C'est un esprit qui agit et qui fait de la politique. C'est un esprit d'intimidation, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est un esprit de manipulation et de dissimulation. Ça, c'est le cinquièmement. Sixièmement, c'est un esprit qui conduit les gens. Je vais dire qui premièrement conduit les gens, ça veut dire qu'il y a de l'influence et de l'autorité sur les gens. Et deuxièmement, qui les conduit, oui, mais dans la perversion spirituelle et morale. Cet esprit-là ne conduit pas les gens, bien que dans la Bible, Jézabel a conduit le monde, le peuple, dans la perversion morale, spirituelle et sexuelle. Je vais dire, entre nous, pour que vous compreniez, cet esprit n'est pas là tellement pour conduire les chrétiens dans les boîtes de nuit ou dans je ne sais trop quoi. Cet esprit-là existe pour, il œuvre à... comment expliquer à donner aux chrétiens, aux vrais chrétiens purs, dans leur foi, un autre esprit. C'est-à-dire qu'il ne les enlève pas du tout obligatoirement des choses spirituelles, comme les gens, les païens de ce monde, qui ne croient pas que Dieu existe. Non. C'est un esprit qui reste dans tout ce qui est dans les choses spirituelles. Mais les choses spirituelles perverties, là où la vérité n'est plus la vérité. Comprenez ? Où les gens ne servent plus Dieu avec leur esprit pur et simple et saint devant Dieu, mais ils ont un autre esprit, qui est un esprit qui est toujours tourné vers les choses spirituelles, mais qui n'est plus l'esprit de l'Évangile. Comprenez ? Ce n'est plus la doctrine pure, simple et saine de la foi. C'est un autre esprit qui aime les choses spirituelles, mais pas selon Dieu. Je parle d'un esprit très subtil, et qui se sent très bien dans les choses spirituelles, qui se sent très bien dans les choses de l'Église. Ok, alors ça c'est le sixièmement, donc c'est un esprit qui premièrement conduit les gens et deuxièmement les conduit dans la perversion spirituelle et morale. Septièmement, c'est un esprit qui sait jouer des apparences et qui travaille beaucoup à son image, à son discours et qui est plein de ruses. Ça veut dire que c'est pas un esprit qui se néglige, comprenez ? C'est pas un esprit qui est indifférent à l'opinion des autres. Non. C'est un esprit qui est, parce que c'est un esprit politique, c'est un esprit qui va travailler énormément les apparences, qui va travailler énormément son discours, qui va travailler énormément son image, parce que il veut influencer les gens. Donc il va travailler énormément à sa personnalité, à changer de personnalité, à se cultiver une personnalité, à travailler une personnalité pour paraître. Si vous regardez dans l'esprit de Jézabel, dans l'histoire même de Jézabel, lorsque le roi Jéhu est entré dans la ville, elle s'est mise à la fenêtre. Et avant de s'être mise à la fenêtre, elle savait que Jéhu entrait dans la ville, elle s'est maquillée et elle s'est parée les cheveux. Elle s'est préparée, elle s'est fardée. C'est un esprit qui est très, très, on va dire, très sensible à l'apparence, qui reconnaît, qui comprend très bien l'opinion des gens, qui est sensible à ce que les gens pensent, qui sait, qui est très caméléon en fait, qui sait être juif avec le juif, grec avec le grec, mais pas de la bonne façon, qui sait être marron quand il faut être marron, vert quand il faut être vert, orange quand il faut être orange, qui sait se faire à différentes couleurs en fonction des différentes personnes, qui adapte son discours, qui adapte sa façon de vivre et sa façon de faire en fonction des gens avec qui ils sont. Est-ce que ça vous parle ? C'est pas un petit esprit simple comme ça. C'est un esprit que vous pouvez vaincre simplement avec la double onction. Élie n'a pas pu le vaincre, cet esprit, dans son temps. Il a fallu que Élisée vienne dans la double onction pour vaincre l'esprit de Jézabel. Ok, nous sommes au septièmement et huitièmement. C'est un esprit qui donne des conseils corrompus. Les conseils que donne cet esprit ne sont pas des conseils purs ou droits, ce sont des conseils qui sont intéressés et corrompus, exactement comme Absalom, qui était à la porte de la ville et qui n'était pas là pour le bien des gens, mais qui était là pour son propre bien à lui. Neuvièmement, c'est un esprit qui est mangé par l'orgueil, dévoré par l'orgueil, n'est-ce pas ? Dixièmement, c'est un esprit de rébellion, de dureté. La Bible dit qu'un cœur dur, c'est pire, pire que la sorcellerie. C'est un esprit qui est très dur, très important. Onzièmement, c'est un esprit qui usurpe l'autorité. Qu'est-ce que ça veut dire usurper l'autorité ? C'est-à-dire s'emparer d'une autorité qui n'est pas la sienne. Nous avons tous une autorité, n'est-ce pas ? Nous avons tous des responsabilités. Et tout marche bien aussi longtemps que nous restons dans notre autorité, dans nos responsabilités. Moi, je ne viens pas dire à Marilyn comment elle doit faire chanter les gens, si elle doit les faire chanter sur une clé de sol ou sur une clé de mi, je ne sais même pas si ça existe. Comprenez ? Et Marilyn ne va pas voir... je ne sais pas trop qui, ou la sono, en leur disant que c'est pas le bouton vert qui doit toucher, c'est le bouton rouge. Comprenez ? Elle reste dans son autorité. Elle reste dans sa responsabilité. Mais l'esprit de Jézabel ne se contente pas de son autorité ou de sa responsabilité. Elle va et elle usurpe une autorité qui n'est pas la sienne. Elle prend et s'empare de l'autorité d'autres personnes et s'en revêtit comme étant la sienne. Comprenez cela ? Douzièmement, l'esprit de Jézabel est un esprit qui ne se repent jamais. Il ne s'excuse pas, il ne demande pas pardon, il vous écrase les pieds, un point c'est tout, et il avance. Il ne se repent pas, il ne demande pas pardon, il ne marche pas dans l'amour, il avance. Et même s'il doit écraser votre tête, il avance. Et treizièmement, c'est aussi finalement un esprit donc qui s'oppose à Dieu, un esprit qui se tourne contre Dieu, un esprit qui combat l'œuvre de Dieu, qui combat les serviteurs de Dieu et qui combat l'onction de Dieu. Ça va pour vous ou ça va trop vite ? C'est l'école biblique, hein ? Ce soir. Treizièmement, c'est un esprit qui s'oppose à Dieu, qui se tourne contre Dieu, qui combat l'œuvre de Dieu, qui combat les serviteurs de Dieu et qui combat l'onction de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Voici les 13 petits points qui ont impressionné mon mari, que je lui ai fait lire. Ok. Maintenant, quelle est l'histoire de Jézabel ? Je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Vous voulez que je vous la raconte ? Peut-être certains d'entre vous, vous la connaissez très bien, d'autres, vous la connaissez un petit peu moins. Donc, je vais vous raconter l'histoire. L'histoire commence On peut dire, on va prendre les faits un petit peu plus en arrière pour arriver à comprendre. David a bâti la maison du Seigneur, n'est-ce pas ? David a bâti le temple avec Salomon. Enfin, plutôt David a économisé et Salomon a bâti le temple de l'Éternel. Et donc, ça a été vraiment la lignée de Dieu jusqu'à ce que, après Salomon, la royauté ait été déchirée. Et vous savez que le royaume de Dieu, le royaume, le peuple de Dieu, le peuple hébreu, a été divisé en deux. Il y a eu ce schisme que j'ai beaucoup enseigné donc, au temps de l'école biblique, de la dernière école biblique. Il y a eu ce fameux schisme qui a fait que le royaume de Dieu, le peuple de Dieu sur la terre, donc, a été divisé en deux. Et il y a eu donc deux tribus qui sont parties et qui ont fondé le royaume de Juda et 10 autres qui sont parties de l'autre côté et qui ont fondé le royaume d'Israël. Maintenant, le royaume d'Israël est parti de son côté. Et donc, Jézabel, Achab et tous ces rois vont sortir du royaume d'Israël. Maintenant, lorsque le royaume d'Israël est parti, vous savez, l'autre royaume, c'est le royaume de Juda. Et vous savez, Juda, c'était la tribu qui était là pour être le sacerdoce, n'est-ce pas ? Sacerdoce, on peut dire, il y a quelqu'un un autre mot, j'ai l'impression que c'est pas le bon mot. Son autorité spirituelle, si vous voulez. Il a créé lui-même en disant, bon, Dieu t'a pas désigné, moi on va te désigner. Un petit peu comme ça. Bon, Dieu n'a pas désigné de pasteur, on va te faire pasteur. Et puis toi, tu vas nous conduire dans la parole. Puis toi, tu vas faire les chants. Puis toi, tu vas faire la louange. Puis toi, avec toi, l'onction va descendre. Enfin, qu'elle descende ou pas, d'une façon ou d'une autre, ce sera toi. Peu importe à la rigueur. Si l'onction est là, peu importe si ça plaît à Dieu ou pas. Voilà ce qui s'est passé dans le royaume du Nord. Ils ont pris des personnes, ils ont dit, c'est toi qui vas être le lévite, c'est toi qui vas être le prêtre, c'est toi qui vas être maintenant le sacrificateur. Et puis voilà, ça va marcher comme ça. Ça plaît ou pas, l'onction est là ou pas, peu importe, on a ce qu'il faut. On n'a pas besoin de se mélanger avec Judas. Maintenant, on est notre propre royaume, on est divisé, on n'est pas content ensemble. Voilà. Donc, les rois qui sont sortis ont été, et vous connaissez la période des rois, ont été des rois qui ont tous été vraiment impies. Qui n'ont pas servi Dieu, qui se sont éloignés des voies de Dieu. Mais la Bible dit, et si vous regardez avec moi dans 1 roi, et tournez dans vos Bibles dans 1 roi 16, au verset 29, il est écrit que Achab était le fils d'Omri. Et on voit que Omri, donc son père, il est écrit que Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Donc Omri avait été le pire de tous les rois qui étaient avant lui. Mais il est dit au verset 29 que Achab, le fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Achab, fils d'Omri, régna, etc. Achab au verset 30, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Achab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. On voit que Achab, malgré tout le mal qu'avaient fait les autres rois avant lui, Achab a été même pire encore que tous ceux qui étaient avant lui pour faire le mal. Et une des choses presque pires qu'il a fait, c'est que Achab a épousé une femme qui s'appelait Jézabel, qui n'avait pas l'esprit de Dieu en elle, qui était une fille de roi, qui était donc une princesse, qui était la princesse des Sidoniens. Et rappelez-vous qu'il était dit dans la parole de Dieu que le peuple de Dieu n'était pas là pour épouser des femmes étrangères, pour se prostituer à d'autres cultes étrangers, mais que le peuple de Dieu devait épouser des femmes selon Dieu, n'est-ce pas, et faire des mariages selon Dieu pour adorer le Dieu d'Israël. Mais Achab a épousé une Sidonienne qui avait d'autres dieux et qui avait un autre esprit. Et lorsqu'il a épousé cette femme n'est pas venue pour se repentir de ses cultes étrangers et pour adopter le Dieu d'Israël. Cette femme est venue pour détruire le Dieu d'Israël, pour s'opposer au Dieu d'Israël. Et ça, c'est l'esprit de Jézabel. Et voyez-vous, la première chose qu'a fait Jézabel, pour vous raconter l'histoire de Jézabel, la première chose, lorsqu'elle est passée de stade de princesse, fille du roi, au stade de reine, parce qu'elle a épousé le roi Achab, la première chose qu'elle a fait, Jézabel, c'est qu'elle a tué et elle a fait tuer et ordonné la tuerie de tous les prophètes de l'Éternel dans le pays d'Israël. Et c'est à ce moment-là qu'on voit Abdias, le fidèle Abdias, n'est-ce pas, qui a caché les prophètes 50 par 50 dans des cavernes et qui est allé vraiment en cachette au péril de sa vie, leur donner de l'eau, leur donner du pain, afin qu'ils soient gardés et protégés de la colère, n'est-ce pas, et du meurtre, de l'esprit meurtrier de Jézabel. Mes amis, c'est ce que je disais au départ, donc dans le début de cette prédication. Tout autant, à l'époque de Jézabel, il y a 7000 prophètes, 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Jézabel. Mais à quel prix ? Mais à quel prix, mes amis ? Donc la première chose qu'elle a fait, elle a tué tous les prophètes. Et la deuxième chose qu'elle a fait, elle a placé ses prophètes. Ça vous paraît peut-être innocent. Peut-être vous ne comprenez pas le sens de cela, et pourtant c'est exactement l'esprit politique de Jézabel de placer ses hommes, de placer ses personnes, de placer ses prophètes. Elle a tué tous ceux qui se tenaient pour la justice et elle a placé tous ceux qui se tiendraient pour elle. Et Achab a fermé les yeux, a dit oui et amen. Péché, prostitution, perversion, ce sont multipliés dans tout le pays. Jusqu'à ce qu'un jour, un homme qui a l'Esprit de Dieu et qui est appelé par Dieu, et qui s'appelle Élie le Tisbite. Et mes amis, on ne sait pas d'où il vient celui-là. On n'a aucune idée de sa généalogie. On ne sait pas de qui le fils il est, et on ne sait même pas de quelle province il est, mais on sait une chose, c'est que Dieu l'a appelé et qu'il vient dans l'onction de Dieu et qu'il ose entrer dans la cour de Jézabel et qu'il ose venir devant cette femme qui fait tuer tous les prophètes et les fait tenir dans la terreur les quelques-uns qui arrivent et qui ont réussi à rester en vie. Il entre dans la présence de cette femme qui est une femme pleine de démons, qui est une femme remplie d'intimidation, qui est une femme remplie de ruses et qui est extrêmement violente et cruelle. Il rentre dans la présence de cette femme et il lui dit « Ah maintenant, à cause du péché qui a été perpétré dans la nation, au son de ma voix, il n'y aura ni pluie ni rosée jusqu'à ce que je dise qu'il y aura pluie et rosée. » Et la Bible dit que Dieu a pris Élie et que Dieu l'a caché. Mes amis, Dieu avait besoin de cacher Élie, de la présence mauvaise et destructrice de cette femme. Et Dieu, et vous savez que Dieu a caché Élie pendant 3 ans. C'est pas drôle, 3 ans. Dieu a caché Élie au torrent de Kérit, n'est-ce pas, où il a bu l'eau du torrent, où il a été nourri par les corbeaux. Et lorsque il n'y a plus eu d'eau au torrent, il est allé, il a été caché par Dieu, vous savez où ? À Sarepta, la veuve de Sarepta. Et Sarepta, c'est une ville. Et Sarepta, c'est une ville du pays de Sidon. Mes amis, Dieu a caché Élie dans le QG même de Jézabel. Mais lorsque vous êtes caché par Dieu, vous pouvez même être dans le QG de vos ennemis. Lorsque Dieu met ses ailes sur vous, l'ennemi ne peut pas vous détruire. La ruse, mes amis, Dieu est plus grand. Dieu est plus grand. Dieu est plus puissant. Dieu a caché Élie dans le QG de Jézabel. Quartier général. Et il y a eu une famine très sévère qui s'est abattue sur le pays, au point où les chevaux n'avaient plus rien ni à boire ni à manger. Et Achab est parti avec Abdias pour chercher des points d'eau. Lorsque Élie se montre à Abdias et lui dit « Dis à ton maître que j'arrive ». Et donc voici, Élie se présente devant Achab. Et vous voyez, Achab a fait chercher Élie partout, partout. Abdias dit à Élie, mais mon maître, Achab, t'a fait chercher dans toutes les provinces. Si vous voulez, c'était comme si c'était écrit, affiché partout, wanted, Ellie wanted. Ellie le tidbit wanted. Mais Dieu le gardait, Dieu le protégeait. Et voici qu'il se présente et il lui dit rendez-vous au Carmel avec tous les prophètes de Baal, tous les prophètes de prostitution, tous ceux qui ne servent pas Dieu, qui conduisent le peuple de Dieu dans la perversion et dans l'immoralité. Rendez-vous au Carmel et là nous serons si Dieu est Dieu. Et voici que Achab vient, les 850 prophètes viennent, 450 de prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté viennent et montent. Et là, Dieu révèle sa puissance, le feu tombe. Et mes amis, dans sa force, vraiment sous l'onction de Dieu, Élie prend le couteau et tranche la gorge à tous les prophètes qui s'opposent à Dieu, tous les prophètes corrompus, tous les prophètes démoniaques et sataniques de son époque. Ce n'est pas des prophètes, on ne peut pas dire que c'est des prophètes. C'était des prophètes sataniques. C'était des prophètes qui servaient le diable. Il existe aujourd'hui des églises sataniques. C'était des prophètes sataniques qui servaient Satan. Il les extermine parce que plus un seul ne devait rester. Et voici, après avoir fait ce grand exploit, il lui dit maintenant que le peuple s'est repenti parce que lorsque le peuple a vu que le feu est descendu du ciel, vous savez ce que le peuple a fait ? Ils ont dit, ils ont crié, mais oui, mais donc c'est Dieu qui est, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et ils se sont repentis. Parce que le peuple s'est repenti, la pluie est tombée. Il a dit à Achab, viens, allons au sommet de la montagne. Et voici, regarde mon serviteur, va. Et cette fois il va et il cherche un nuage. Et voici un petit nuage grand comme le paume de la main. Et il lui dit, cours, parce que maintenant le peuple s'est repenti. Et lorsqu'il y a repentance, vient, la bénédiction vient. Et que Dieu est un Dieu bon. Et que Dieu est un Dieu d'amour. Et Dieu est un Dieu qui pardonne même 77 fois. Et que Dieu pardonne à son peuple encore. La pluie de la bénédiction est sur le point de tomber. Attelle vite ton cheval et cours vite parce que la pluie va tomber. Achab, cours! Parce que Dieu est un Dieu qui ne ment pas. Et voici Achab dans sa force. Après ce grand exploit, se met à courir, même devant, il est dit, la Bible dit, devant même le cheval d'Achab, et il y courait dans l'onction du Saint-Esprit. Jusqu'à ce que Jézabel apprenne ce que Élie avait fait à tous ses prophètes. Et dans sa colère et dans une immense fureur, avec toute l'intimidation qui pouvait être en elle, toute la haine et tout le meurtre qui peut être relié à sa personne, Jézabel a dit, sache Élie, que demain à la même heure, ce que tu as fait de mes 850 prophètes, j'en ferai la même chose de ta vie. Et moi je rends grâce à Dieu de ce que le diable, vous savez, de ce que Dieu est tellement un grand Dieu, est-ce que Dieu sait déjouer les plans du diable, parce que Jézabel, dans son imbécilité, n'a pas pensé que c'était maintenant qu'il fallait attraper Élie, mais qu'elle a dit demain à la même heure. Et mes amis, entre temps, Élie avait fui. Dieu est grand. Et Dieu sait mettre aussi la confusion dans le camp de l'ennemi. Ouh! Alléluia. Et Élie a eu raison de fuir. Mais Élie a eu tort de fuir dans la peur. Parce que l'esprit de Jézabel est venu contre lui. Et lorsque l'esprit de Jézabel est venu contre lui, il a été désarmé. Cet homme qui avait tué 850 personnes, cet homme qui avait couru devant le cheval d'Achab, cet homme qui avait fait des exploits, cet homme qui avait prophétisé, cet homme qui avait été caché pendant 3 ans et qui avait vu les miracles de Dieu, ce même homme-là qui avait annoncé la pluie et qui est revenu à sa parole, cet homme qui avait les prodiges, les miracles et les signes, vraiment au son de sa bouche, cet homme-là, à la première parole de Jézabel, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un petit esprit, a été désarmé de toutes ses armes spirituelles et s'est senti petit, perdu, intimidé, au point où il a oublié que le feu était tombé du ciel et avait brûlé l'Holocauste. Est-ce que vous comprenez cela ? Et Élie s'est enfui et la peur est venue sur lui. la dépression est venue en lui au point qu'il s'est mis sous un jeûne et qu'il a dit, Seigneur, autant que je meure maintenant. Et il a demandé la mort. Et un ange est arrivé, deux gâteaux lui ont été servis, il s'est mis à courir 40 jours et 40 nuits. Il a dû monter à la montagne de Horeb où Dieu vraiment a pris soin de lui et l'a vraiment restauré. Et Dieu lui a dit, maintenant que tu es restauré, tu vas aller voir le roi Jéhu, que tu vas oindre pour roi, et tu vas aller voir Élisée, que tu vas oindre pour prophète. Et Élisée aura la double onction. Et c'est sous lui et sous cette double onction que Jézabel sera détruite, que cet esprit sera vaincu. Amen. Pendant ce temps-là, Achab a vu la vigne d'un juste, d'un homme qui était droit, d'un homme qui était pur, d'un homme qui servait Dieu, d'un homme qui s'appelait Naboth. Et Achab a eu envie de la vigne de Naboth. Et Achab et Jézabel ont vraiment tué une fois de plus un sang innocent. Le sang de Naboth a coulé afin qu'il puisse obtenir cette vigne. Et le jugement de Dieu est tombé cette fois-ci sur Achab et sur Jézabel. Amen. Et le jugement a dit que Achab, ce roi, il serait, son sang serait léché par les chiens, n'est-ce pas, et que des prostituées se baigneraient dans son sang. Et le jugement est tombé sur Jézabel, et il est dit que Jézabel, les chiens mangeront sa chair, et qu'il n'y aurait plus personne pour l'enterrer. Voilà ce qui a été prononcé de la bouche d'Élie. Élisée entre dans la puissance, et voici que Achab va mourir, et il va mourir comme la prophétie le déclare, et je reviendrai sur ces choses, en fait, à la fin de mon message, peut-être lors d'une autre session. Et Jézabel va mourir aussi. Donc je vous ai raconté toute l'histoire d'Achab et de Jézabel exactement selon le jugement qui allait tomber sur eux. Et elle va donc mourir dans le champ de Naboth, dans la ville de Jizréel, sous le règne de Jéhu. Amen, le roi Jéhu. Amen. Gloire à Dieu. Voici donc l'histoire de cette femme qui a mis le trouble dans la nation d'Israël. Ok, donc quand vous connaissez cet esprit, quand vous connaissez ces façons de faire, eh bien vous allez pouvoir le vaincre. Je reviendrai sur toute la fin de Jézabel et d'Achab parce qu'il y a des leçons à en tenir. Parce que lorsque Jézabel est morte, elle n'est pas simplement morte comme cela. C'est pas la mort de gens. D'abord, ce sont des morts qui sont des jugements. Ce sont des morts qui sont des tragédies. Et aussi, c'est pas rien, des prostituées qui se baignent dans leur sang, des chiens qui lègent leur sang. Jézabel, donc, l'entrée de Jéhu, du roi Jéhu, dans sa ville, qui se farde et qui se fait belle, qui se revêt de toute son apparence et qui est jetée par la fenêtre, son corps est jeté par la fenêtre vivante, donc, et qui meurt, qui est piétinée, en fait, au pied par le cheval de Jéhu. Jéhu va piétiner son corps. Le cheval de Jéhu va piétiner le corps de Jézabel. Jéhu va partir boire ou manger quelque chose et il va dire, mais enterrez-la, parce que c'est quand même une fille de roi. Vous savez, les filles de roi, tous les parents de rois et les rois eux-mêmes étaient enterrés avec beaucoup de respect dans la ville des rois et dans la cité des rois, etc. Et c'était quand même une fille de roi. Alors il dit, allez l'enterrer. Et lorsqu'il sort et qu'il regarde, toute sa chair et tout son corps a entièrement été mangé par des chiens. Et la seule chose qu'on retrouve de Jézabel sera la paume de ses mains, une partie de son crâne et ses pieds. Et cela a une explication, et je vous donnerai donc l'explication de ces choses. Ok, mais pour l'instant, nous allons continuer. Et j'aimerais vous parler du premier point que nous avons commencé ensemble, qui est l'esprit de domination. Bon, dites-moi à quelle heure vous devez rentrer, parce qu'il est déjà 9h30. Vous savez, j'ai 9 pages que j'ai tapées sur l'esprit de Jézabel. J'en suis à ma deuxième. Enfin, je suis à la moitié de ma deuxième, parce que j'ai terminé le vert, là. Je rentre dans le bleu. Donc, c'est pour ça que je dis, ok, on va avancer encore un petit peu, mais je vous donnerai rendez-vous, un prochain rendez-vous pour que nous puissions continuer. L'important, ce n'est pas de traiter ce sujet à la va-vite, c'est de le traiter profondément. Amen. De prendre le problème à la racine. Est-ce que ça vous intéresse, cet enseignement? Ok, donc l'esprit de Jézabel, c'est premièrement un esprit de domination. Et lorsque je parle de domination, j'aimerais maintenant vous parler du danger de vouloir contrôler et d'aimer dominer. Maintenant, c'est à chacune d'entre vous que je parle ce soir. Parce que pendant un certain temps, il y a peut-être un certain plaisir, une certaine jouissance que les gens éprouvent à contrôler, à avoir du pouvoir, à dominer les autres. Et cela se passe beaucoup dans les professions. On voit ce qui se passe souvent dans le travail. Et là, ça se passe parfois dans les relations dans l'église entre croyants. Et là, je veux dire, à la grande honte, parce que cela ne doit pas être ainsi dans l'église, parce que lorsque j'ai commencé cette prédication, je vous ai parlé du système de ce monde, et que si l'on appartient et que si l'on agit selon le système de ce monde, alors on ploiera aussi le genou devant le système de ce monde, et on se trouvera avec des choses que l'on ne veut pas se trouver, et on aura du mal à se trouver dans l'enlèvement, parce que dans l'enlèvement, ce seront ceux qui n'auront pas ployé le genou devant Baal, qui n'auront pas baisé, embrassé, donc les pieds de Baal, ok? Donc nous ne pouvons pas nous permettre, même dans notre vie de tous les jours, d'agir selon le système de ce monde. Nous devons le connaître, le reconnaître, et nous devons vraiment le déjouer. Nous devons le débrancher. Nous devons le démasquer, ce système, et qu'il n'ait aucun accès en nous. Amen. Donc pendant un certain temps, vous savez, les gens, ils aiment sentir qu'ils ont du pouvoir sur les autres. Vous comprenez? C'est quelque chose, quelque part, de vicieux dans la personne humaine. Ce n'est pas une chose que j'affectionne du tout. C'est une chose que je ressens lorsque les gens ont ce genre d'attitude. Je peux le sentir à 15 km à la ronde. Parce que je ne suis profondément pas comme cela. Et Dieu merci pour cela, sinon je ne serais pas là où je suis. Mais je n'aime pas cet esprit. Je le reconnais dans la vie de ceux qui agissent comme cela. Et c'est une chose qui me met profondément en colère. Et c'est une chose que je ne veux pas voir dans l'église. Pendant un certain temps, les gens aiment contrôler, jusqu'au moment où c'est le contrôle qui les contrôle. Vous jouez avec le contrôle, et un jour vous vous trouvez possédé par le contrôle. Vous aimez contrôler les gens, et puis un jour c'est l'amour du contrôle qui vous contrôle. De sorte que vous ne savez plus comment avoir des relations anormales avec les gens, sans y mettre un esprit de contrôle. Comprenez? Vous ne pouvez plus avoir des rapports normaux entre frères et sœurs sans essayer d'avoir une relation de hiérarchie. Vous savez, j'ai une relation d'amour avec les gens de l'église. Je suis respectée dans l'église, mais je ne joue pas d'une relation de hiérarchie avec les gens de l'église. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est vrai. Dites-le haut et fort. C'est vrai. Je veux avoir une relation d'amour avec les gens. C'est aussi, par la grâce de Dieu, une relation de respect. Mais pas une relation de subalterne à supérieur. De supérieur à subalterne. Cet esprit-là, c'est le système du monde. Ce n'est pas le système de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Vous jouez avec le contrôle. Et puis un jour, c'est le contrôle qui joue avec vous. Et vous n'êtes plus capable d'entretenir des rapports humains normaux avec les gens. Pourquoi les gens sont offensés dans l'église? Est-ce qu'on a besoin d'être offensé tout le temps? Est-ce que je suis tout le temps offensé? Les gens sont offensés parce qu'ils attendent des gens quelque chose de spécial envers eux. Ils ont tellement conscience d'eux. Ils s'attendent à ce que les gens leur disent bonjour. Pas qu'eux, ils disent bonjour, que les gens leur disent bonjour. Et si vous leur dites pas bonjour, ils sont offensés. Mais l'esprit d'offense est un esprit d'orgueil. Les gens qui sont constamment offensés ont besoin de se repentir de leur offense et de sortir du fiel de l'amertume dans lequel ils sont. parce qu'ils sont remplis d'arrogance, remplis d'orgueil. Ils ont besoin de se repentir et de sortir du système du monde pour entrer dans le système de Dieu. Si vous êtes offensé pour un oui, pour un non, repentez-vous. Pas les autres se repentent, repentez-vous. L'esprit d'offense est un esprit d'orgueil. Le contrôle ouvre la porte à toute espèce d'esprit. Ouvre la porte à beaucoup d'esprits. Les gens aiment contrôler, puis se trouvent contrôlés par le contrôle. Et cet esprit de contrôle va ouvrir toute espèce d'autres esprits dans leur vie. Parce que le contrôle, lorsqu'il vient, cet esprit de contrôle et de domination, et je préfère utiliser le mot domination, parce que derrière le contrôle, il y a cette pulsion d'aller plus loin qui est de dominer. Et vraiment, le diable veut dominer. Mais Dieu ne nous domine pas. Dieu nous conduit, Dieu nous bénit, Dieu prend soin de nous, Dieu ne nous domine pas. Maintenant, le diable, il est dit qu'il domine ce monde. L'esprit de domination est directement relié à l'esprit de Satan. Vous comprenez ? C'est une arme démoniaque et satanique. Donc, lorsque le contrôle entre, il amène aussi tous ses collègues. Amen. Tous ses petits amis avec lui. Et après, vous êtes avec le contrôle et vous vous trouvez avec la dissimulation et vous vous trouvez après avec l'intimidation et vous avez le contrôle, la domination et l'intimidation et quoi d'autre? Et la politique et la manipulation et toutes les 13 choses. Et finalement, vous vous retrouvez en commençant à caresser le contrôle dans votre vie, vous vous retrouvez avec un bel esprit de domination et puis vous vous retrouvez avec un bel esprit d'antéchrist. Et vous vous retrouvez à faire du mal dans l'église alors que vous vouliez être un chrétien bon et sincère. Attention, attention. Vous vouliez faire le bien et vous vous retrouvez être celui qui divise, être celui qui fait des problèmes, être celui qui amène des conflits, amène des offenses, à celui qui fait du mal et fait sortir les gens de l'église. Et puis un jour qui se retourne contre l'église. Ça commence comme ça. On caresse la chair, on ne se reprend pas, on écoute les messages, mais ce n'est jamais pour nous, c'est toujours pour le voisin, la personne qui est assise, et puis on joue des amen et des alléluia. Amen, c'est pour toi. Amen, alléluia, c'est pour cette sœur. Oh oui, c'est pour ce frère, jamais pour soi. Et on se retrouve à être l'ennemi de Dieu. Et je vous dis, quand on est et on devient l'ennemi de Dieu, on est aussi maudit par Dieu. On ne peut pas faire du mal impunément à la maison de Dieu. Attention, la maison de Dieu, les serviteurs de Dieu, les gens oints par Dieu et les enfants de Dieu sont la prunelle des yeux de Dieu. Attention, veillons sur nous-mêmes à la moindre attitude, à la moindre chose dans nos vies qui n'est pas disciplinée et que la parole expose. Remettons-la sous le jour de la parole. Remettons-nous en question, repentons-nous et changeons. Amen. Les gens qui dominent, maintenant écoutez-moi, les gens qui dominent en sont toujours conscients. Comprenez ? Les gens qui dominent, que ce soit dans leur maison, que ce soit dans leur foyer, que ce soit même sur les enfants, un contrôle excessif ou trop pesant sur les enfants peut devenir de la domination, enfin dans quelque secteur que ce soit, les gens qui dominent, que ce soit à la maison, ou que ce soit à l'église, ou que ce soit dans le travail, ou dans quelque chose que ce soit, les gens qui dominent en sont intérieurement conscients. Ils ne sont pas innocents, ils le savent. Ils savent qu'ils mettent un joug sur la vie des autres. Même si vous leur dites et qu'ils disent non, ils le savent quand même à l'intérieur d'eux. Ils aiment contrôler et pour eux, c'est devenu une dépendance dans les rapports humains. Mais contrôler, au-delà de certaines limites, c'est s'exposer à devenir hors de contrôle. Lorsque l'on veut contrôler, au-delà d'un point qui est le point normal et naturel que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné un certain contrôle dans la famille, Dieu nous a donné un certain contrôle sur les enfants, Dieu nous a donné un certain contrôle par rapport à certaines responsabilités de l'Église. Lorsque l'on outrepasse ce contrôle-là. Et qu'on on entre dans le contrôle qui n'est plus le contrôle de Dieu, mais le contrôle vraiment dans lequel Satan veut vous pousser, vous vous exposez à devenir hors de contrôle. C'est-à-dire que vous allez faire des choses et vous allez changer d'attitude, vous mettre en colère, vous mettre en fait hors de votre contrôle pour obtenir ce contrôle. Est-ce que vous me suivez ? Parce que vous voulez du contrôle, vous devenez hors de contrôle. Vous perdez vous-même votre contrôle. Est-ce que vous comprenez ? Pour obtenir ce contrôle. Dans toutes ces choses, la chair est vraiment, et le diable, il est implicitement imbriqué, et même si c'est dans l'Église. Sachez maintenant que le contrôle, il est partout dans notre société, n'est-ce pas ? C'est pour ça que nous devons être vigilants. Parce que le contrôle, il est tout autour de nous. La domination, c'est l'esprit de contrôle et de domination, il se trouve tout autour de nous. Parce que dans ce monde, il y a toute espèce de lutte, que ce soit entre pays, que ce soit entre tribus, que ce soit entre gens, entre sociétés, que ce soit où que ce soit. Il y a des luttes dans ce monde pour avoir le pouvoir et le contrôle. Le monde est comme ça, c'est le système du monde. Et ces luttes, comme je l'ai dit, elles sont dans la famille, elles sont dans l'école, elles sont dans le travail, elles sont dans tous les domaines de la vie. Nous sommes dans ce monde-là. Mais la Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais que nous ne sommes pas de ce monde. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est pour ça que l'on voit des situations où les femmes cherchent, enfin les femmes, les épouses, cherchent à dominer leur mari, n'est-ce pas ? Ou des maris qui cherchent à dominer leur femme. On voit, à cause de ce système, de ce monde qui est là, et qui est comme une influence lourde, une pression spirituelle, on voit des enfants qui cherchent à dominer leurs parents, n'est-ce pas ? Ou à influencer leurs professeurs. On voit des hommes qui veulent dominer leurs employés. Et on voit que le contrôle fait partie du monde dans lequel nous sommes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Si vous travaillez à l'extérieur, probablement vous savez cela. Maintenant, la domination, elle s'exerce de différentes façons. La façon de dominer, quand les gens veulent dominer, ils le font soit par la force, n'est-ce pas ? Ils imposent des rapports de force pour dominer. Ou bien ils le font par l'intelligence et par la ruse pour dominer. Ou bien ils le font par l'utilisation de la faiblesse ou d'une semblance, un semblant de faiblesse qui n'est que de la manipulation. Est-ce que vous me suivez ? Ou ils le font par la peur, qui est en fait l'intimidation. Dieu ne nous appelle pas à vivre selon les influences démoniaques de ce monde dans lequel nous vivons. Et dans l'Église, sachez une chose, il est impossible de servir Dieu avec les méthodes du monde. Parce que Dieu nous appelle à tout le contraire du monde, n'est-ce pas ? Il dit que si tu meurs, tu vivras. Si tu donnes ta vie, tu la recevras, n'est-ce pas ? Il est dit, donne et tu recevras. Il est dit, si tu perds, si tu acceptes de perdre, tu vas gagner. En donnant, tu reçois plus. Dieu a un autre système. Et c'est dans ce système que nous devons vivre. Pour véritablement contrôler nos vies, nous devons apprendre le secret qui est d'abandonner notre vie entre les mains de Dieu. Personne ne peut servir Dieu s'il ne s'abandonne pas lui-même. Amen. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'est-ce qu'il est dit après ? Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, qu'il s'abandonne à lui-même. On ne peut pas commencer à servir Dieu si on n'est pas passé par une œuvre d'abandon et de mort de la chair. Et mes amis, servir Dieu, c'est vraiment dans ce sujet dans lequel nous sommes, mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet maintenant, mais c'est apprendre à mourir. Si vous n'êtes pas mort, et moi je suis morte, telle que vous me voyez, je suis morte. Vous savez pourquoi je suis morte ? Je suis morte aux choses du monde. Je suis morte à tout ce système-là dont on parle. Je suis morte. Maintenant, on ne naît pas dans ce monde mort à ces choses. On est dans ce monde vivant à ces choses. Parce que notre chair crie. Et à moins qu'elle meure, elle crie. Et crie toujours plus. Jusqu'à ce que vous acceptiez de passer dans le processus de mort aux choses et au système de ce monde qui fait que vous pouvez être utile et utilisé par Dieu. Sans quoi vous ne serez d'aucune utilité par Dieu si vous n'apprenez pas à mourir. Je suis morte. Je ne suis pas morte en un jour. Je ne suis pas morte en un mois. Le processus de mort dans ma vie a pris plusieurs années jusqu'au moment où, si vous me pincez, levez la main, ok. Si vous me pincez dans des choses qui m'étaient sensibles, ça ne me fait plus aucun mal. Si on vous pince et que c'est encore douloureux, c'est que vous n'êtes pas mort. Parce que lorsque vous êtes mort, vous n'avez plus mal. Lorsque vous êtes mort, vous ne ressentez plus rien. Lorsque vous êtes mort, vous faites simplement ce que Dieu vous demande de faire, parce que vous avez envie de faire, parce que ce que les gens aimeraient vous manipuler ou vous dire de faire, ce que Dieu vous demande de faire, vous êtes mort. Et moi, je suis morte. Je suis morte à ma position. Je suis morte à ma réputation. Je suis morte à ce que les gens pensent de moi. Je suis morte à la place que les gens aimeraient me voir ou pas me voir. Je m'en fiche de ce que vous pensez. Je m'en fiche de ce que vous aimez. Je m'en fiche. Je m'en contrefiche. La seule chose qui compte pour moi, c'est ce que Dieu pense. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu aime. Et si Dieu ne veut pas que je fasse cette chose, je ne la ferai pas. Et si Dieu veut que je le fasse et que même ça ne me plaît pas, je le ferai avec des larmes, mais je le ferai. Je suis morte. Mais je n'ai pas toujours été morte. Maintenant, je vais vous rassurer, ça fait longtemps que je suis morte. Je ne suis pas une toute jeune nouvelle morte. Je suis une vieille morte. Je suis une toute vieille morte. Mais le diable est venu à frapper à ma porte. Et j'ai dû choisir dans quel camp je voulais aller. Il y a des gens qui décident de servir Dieu, qui décident de mettre le pied dans le ministère sans être mort. Ce sont comme des conducteurs alcooliques. Ce sont des gens qui ont un volant en main, mais qui n'en ont pas le contrôle. Ce sont des gens dangereux qui vont faire des accidents, qui vont provoquer des morts. Ce sont des gens qui vont faire du mal. Quiconque entre ou touche aux choses sacrées du ministère sans être mort vont faire de la destruction dans le corps de Christ. Vous ne pouvez pas servir Dieu tant que vous êtes vivant. Vous pouvez servir Dieu que quand vous êtes mort. Est-ce que vous comprenez cela? Personne ne peut toucher aux choses du ministère sans être déjà mort.